Karim Atmoul, sénateur au Maroc et président de région, ex-président de région. J'ai une question importante, c'est que autour de ce tour de table, qui est le leadership? Parce que pour moi, l'État est absent.
Non.
C'est pas tout à fait vrai, mais bon.
Oui. Le leadership, c'est la Poste. Il y a quelque chose aussi à voir, c'est que on est dans un marché. Et dans un marché, on doit avoir des offres qui jouent avec des règles d'un marché. Donc, ce qui est vraiment extrêmement important pour nous, c'est que des clients s'adressent à des industriels. Et ceux que vous voyez là, ce sont des clients. Et l'État, si l'État intervient là-dedans, il intervient là-dedans en tant que client, d'accord, via le GAP.
Mais
c'est pas l'État en tant que réglementeur.
C'est le GAP.
Le GAP qui est un groupement d'achat de l'ensemble des services de l'État. Et puis, Olivier, par ailleurs, parce qu'il y a des services de l'État qui vont passer par le GAP, on les raccroche autrement. Mais c'est aujourd'hui les acheteurs de l'ensemble de l'État, c'est officiellement sur tout.
C'est vrai que l'État dans ce rôle-là, il a un double rôle. C'est que d'un côté, il est acheteur, donc, au même titre que les autres, il passe par le GAP, et nous, on va aussi passer par le GAP par rapport aux collectivités locales d'ailleurs. Mais il est également cette action-là collective, pilotée par la Poste, s'inscrit aussi dans une demande du MEDAT qui a demandé à
Jean-Paul
Bailly avait envie de le faire aussi, enfin tout ça se rejoint, hein. Mais c'est coordonné et dans chacune des réunions du comité de pilotage, on a un représentant de l'État qui est là et qui nous rend compte également d'autres travaux en parallèle, notamment par exemple une grosse réflexion sur les infrastructures. Sur la réglementation, etc. Donc tout ça essaye de se croiser. Nous, on essaye de garder le cap de on veut 50 000, 100 000 véhicules, etc. Mais on sait que le reste devra presser de nous suivre, donc on ne peut pas complètement ignorer. Il y a du tuning qui n'est pas toujours évident, d'ailleurs, sur cette affaire-là.
Mais
ça avance.
Ouais. Si c'était naturel, ça se ressemblerait déjà. Donc c'est forcément, ça frotte un peu.
Est-ce que vous avez encore le temps d'une question?
Oui, mais allez-y, je vous en prie.
Une et une.
Voilà, vous êtes défléqué à la direction générale de la gendarmerie nationale.
On a beaucoup parlé
de la ville et assez peu des territoires et du monde rural. Et on a à peu près les mêmes problématiques de tournée de communes. Je voulais savoir comment vous envisagez l'évolution des mobilités dans le monde rural.
Aujourd'hui, alors, nous, les facteurs qui vont pouvoir s'équiper de ça sont des facteurs qui font des tournées qui n'excèdent pas 100 km ou même 70 km. L'utilisation du véhicule électrique en mode postal, c'est particulier puisqu'en fait le facteur n'arrête pas de s'arrêter et de repartir. Donc en fait, on a besoin du double d'un mode d'usage normal. Hein. Donc une voiture qui fait 150 km d'autonomie avec des arrêts, et je pense que vous pouvez être plutôt dans ce modèle-là, enfin je ne connais pas le modèle d'usage que vous avez, mais lorsqu'une voiture s'arrête aussi souvent que sur une tournée de facteur, de fait, ça veut dire qu'on peut adresser des tournées de 75 km de parcours récurrent. Ce qui veut dire que nous, dans le monde rural, on ne peut pas encore. Parce que dans le monde rural, le parcours du facteur, il est plus près des 150, voire même un petit peu plus, kilomètres tous les jours. Et on ne peut pas utiliser encore ces véhicules-là pour le faire. Donc, pour aujourd'hui, ça n'adressera pas nos tournées, nous, dans le monde rural. Si en revanche, vous avez des choses qui sont en périphérie urbaine ou sur des boucles qui sont des boucles courtes, y compris dans le monde rural du côté de la gendarmerie, je ne connais pas, mais qui n'excèdent pas 150 km d'autonomie, ça, c'est des choses qui peuvent se regarder.
Dernière question.
Oui,
Victor
Roy, je suis ministère de la Défense. Et votre expérience m'intéresse beaucoup parce qu'on a des besoins très proches sur la plupart de nos bases. On va d'ailleurs se lancer sur la base d'Orléans-Brissy sur l'équipement en véhicule électrique, mais plutôt dans une approche qui est vraisemblablement un peu celle d'EDF ou de France Télécom ou GDF, qui sont ou des TP, oui, qui sont plutôt le transport de la caisse à clous, la boîte à outils, que celui de d'une logistique un petit peu particulière comme celle de la Poste. Ma question, quant au cahier des charges, est-ce que finalement vous arrivez à marier des besoins genre transport de la caisse à clous avec ou des besoins genre transport du courrier ou des colis, est-ce que finalement vous êtes tombé d'accord assez facilement?
Oui, très facilement. Alors, encore une fois, très facilement, en ayant postulé qu'on voulait aboutir. Hein, c'est là où les techniciens doivent être encadrés par une volonté un peu stratégique et un peu méta. Hein. Parce que si moi j'écoute mes techniciens, ils vont m'expliquer que oui, mais ça ne marche pas tout à fait. Hein. C'est parce que la porte que l'on ferme 300 fois, là, on n'a pas pris compte. C'est normal, ils vont le faire comme ça. Mais aujourd'hui, oui, ADP Air France... Leur objectif, ce n'est pas de mettre ça dans les avions, mais en fait, c'est d'avoir une politique de zéro CO2 au sol. C'est ça qu'ils veulent. Donc, zéro CO2 au sol, ça veut dire que tout ce qu'ils opèrent au sol doit être soit électrique, soit... les gros tracteurs, je ne sais pas comment ils le font. Bref. Et du coup, ils ont aussi tous leurs services d'entretien, caisses à outils et autres, qu'ils embarquent là-dedans. Hein. Donc les services, les véhicules de service, de personnes, mais aussi ce type de véhicule. Donc a priori, oui.
Je me permets une dernière question très très bas de gamme. J'habite à côté de la grande poste du Louvre. Est-ce que vos véhicules vont amener la conduite apaisée de la part de vos chauffeurs?
Oui.
Ils sont un peu kamikazes.
Oui, bien sûr.
Les camions jaunes me font assez peur.
Non, ça, c'est les camions. Moi, je parle des
camionnettes. Non, mais c'est pas des camions, c'est pas des semi-remorques. Hein. C'est des moins de 3 tonnes 5, soyez sûrs. Mais ils vont très vite.
Ce que l'on a constaté aussi, on a une expérience de 600 voitures. On a fait plus de 100 000 km en véhicules électriques sur les dernières expériences. Ce que l'on constate, là aussi, ça fait très apologie de la voiture électrique, c'est qu'on a beaucoup moins d'accidents avec les conducteurs quand ils sont sur des voitures électriques. Beaucoup moins d'accidents, mais c'est de l'ordre de 25%. Hein, ça s'explique par le c'est une conduite très apaisée. Vous n'êtes pas agressé par le bruit. On parle toujours du CO2, mais l'agression sonore, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ça aussi dans les villes, hein, c'est extrêmement désagréable, et au point, et elle est tellement silencieuse qu'il faut même qu'on rajoute un petit bruit, parce que c'est dangereux pour les cyclistes et les cyclistes, et même pour le conducteur, parce qu'en fait quand vous la démarrez, vous ne savez pas que vous allez démarrer. Et du coup, vous appuyez sur l'accélérateur sans penser que vous êtes en train de démarrer. Voilà. Donc, on a été obligé de réinjecter des petits bruits. Alors, je ne sais pas si on finira comme les bruits des téléphones. On remettra des bruits de moteur électrique, ce sera un peu cocasse. Mais en tout cas, on est obligé d'y rajouter des bruits pour le chauffeur et pour la sécurité extérieure.
Il y a un chargement de bruit voiture.
Exactement. Ah,
Tant avec un bruit Ferrari à plein.
Oui, c'est génial. Et inversement.
On a effectivement un très gros effet. On a un deuxième effet qui aujourd'hui est un effet qui est un petit peu connexe, mais si ça peut vous intéresser. On pratique l'éco-conduite on a plus de 60 000 chauffeurs. Hein. Donc on a formé plus de 60 000 chauffeurs à l'éco-conduite. Ça marche tellement bien et on nous l'a tellement demandé qu'on en a fait même une filiale. Donc aujourd'hui, on a une filiale qui s'appelle MobiGreen qui fait de l'éco-conduite. Alors évidemment, c'est sur très gros volume, mais avec l'éco-conduite, on gagne en moyenne entre 7 et 8% de consommation de carburant. C'est autant en CO2 économisé. Pour la Poste, ça fait 13 millions d'euros d'économiser la bagatelle. 7% de CO2. Et ça, on ne peut pas le contractualiser dans le cadre de MobiGreen, mais moi, je peux vous dire que ça marche comme ça. On a plus de 12% de réduction d'accidents, sur l'éco-conduite, liée à la posture que vous prenez quand vous êtes dans une logique d'éco-conduite, qui est une posture très anticipative, en fait, et qui rend nos chauffeurs beaucoup plus attentifs et du coup beaucoup plus réactifs à un aléa. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez mes coordonnées. Pour monsieur de la Défense, je suis très preneuse d'un contact, parce que je sais que vous avez... voilà, je sais que vous avez des besoins et qu'on doit pouvoir vous embarquer dans l'opération. Ça peut prendre la forme que vous voulez. Enfin, n'hésitez, voilà, si c'est par l'UGAP, ça me va très bien. Sachez que ça marche.